Ce soir, on commence par parler privatisation des barrages hydroélectriques français. On vous diffuse en effet un entretien réalisé avec le réalisateur Nicolas Hubelmann autour de son documentaire « Barrage, l'eau sous haute tension ».
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ce qu'on peut, je crois, appeler un réalisateur engagé. Les deux premiers films qui apparaissent sur votre filmographie s'appellent effectivement « La dette » 2012, je crois, et « Mauvais élève » en 2017. Et là, vous vous êtes intéressé à un sujet tout à fait nouveau pour un documentaire que, enfin, on va voir qui est en fait vraiment ce qu'on appelle un documentaire choc, hein, sur le projet en fait d'ouverture à la concurrence d'une partie de ces barrages français. Vous en êtes venu comment à ce sujet, parce que ça paraît un peu ardu sur le de prime abord.
Et ben c'est toujours un hasard quand on fait des films, et c'est un film qui m'a amené à faire ce film, donc voilà, les films s'enchaînent. En fait, j'avais réalisé effectivement un film sur l'argent il y a quelques années de cela, sur la dette publique et sur la création de la monnaie. Et en fait, dans ce film, on expliquait un peu comment la monnaie était créée par les banques et comment la dette publique en fait pouvait être annulée ou épongée par de la création de monnaie. Ce film avait été diffusé chez EDF, parce que chez EDF, ils ont des super comités d'entreprise, et les syndicats avaient décidé de projeter ce film pour informer les salariés de la situation, donc de la création de la monnaie et de ce qu'est le système monétaire. Suite à ce film, en fait, qui leur avait pas mal plu, on avait fait un zoom déjà à l'époque pour échanger autour du film, mais je les ai pas rencontrés. Et quelques années après, une des personnes qui m'avait invité à parler de ce film m'a rappelé en me disant « Chez nous, c'est la catastrophe, rien ne va plus ». Donc, c'est un militant syndical de chez EDF. Et les barrages sont bientôt sur le point d'être vendus. Les concessions de barrages sont sur le point d'être privatisées, en plus de toute la casse qu'il y a chez EDF par ailleurs depuis des années. Et nous, on voudrait vraiment trouver des gens pour parler de ce sujet. Donc, la première réaction, c'était un peu mitigée, parce que je me suis dit, un film sur les barrages, ouais, mais bon, c'est pas très vivant, un barrage. Je m'étais renseigné un petit peu, j'avais regardé, c'est difficile de filmer à l'intérieur, c'est pas très beau non plus, c'est des ouvrages de béton, voilà. Donc, je voyais pas trop le film. Alors, j'ai un peu temporisé, et puis, j'entendais quand même de plus en plus parler de ces histoires de privatisation d'EDF et du marché de l'énergie, et à un moment donné, je les ai rappelés, un an après, je crois, et ils m'ont dit, c'est incroyable, on reparlait de toi et de la nécessité de faire un film, donc il faut absolument que tu dises notre rapport. Ils venaient de faire un rapport, un très beau rapport sur la situation, il faut que tu lises ce rapport et que tu nous dises ce que tu en penses. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous dis pas, j'ai reçu un rapport de 200 pages sur les barrages de France.
Sympa.
Donc voilà, pas vraiment funky, mais en fait, dès les 4 premières pages, quoi, j'étais dedans comme dans un roman policier. Et j'ai découvert en fait que ces grandes étendues d'eau qui sont des fois le long de nos balades ou dans les chemins de montagne sont en fait des vrais ouvrages industriels, sont des usines très importantes, et qu'elles ont une histoire, ces usines, et que cette histoire est en train d'être complètement chamboulée. Et j'ai trouvé que c'était un sujet non seulement intéressant en termes de ce qui se passe actuellement, mais qu'en plus, il y avait dedans matière à raconter un peu l'histoire de la France, ce qui est fait dans la deuxième partie du film.
J'ai eu en fait le même genre de choses que vous, d'épiphanie, j'allais dire, en découvrant votre documentaire, en fait, parce que ça a l'air ardu comme ça sur le papier, je le disais, et se pose toutes ces questions de film, etc. Mais en fait, c'est quand même au cœur du système électrique de notre vie, en fait, voire même, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'irrigation, il y a aussi des plans d'eau. Finalement, c'est bien plus au cœur de notre vie que ce qui n'y paraît.
Ah oui, complètement. Mais c'est hallucinant d'ailleurs qu'on ait pu passer à côté de ça aussi longtemps. Enfin, moi, je me dis comment j'ai pu ignorer la situation de ces barrages, et puis même de l'énergie, parce que l'énergie, c'est le cœur de notre société, c'est le feu sacré. L'ancêtre, c'est le feu, et aujourd'hui, c'est le nucléaire et l'énergie renouvelable. Donc, sans feu, la civilisation, c'est zéro. Donc, il faut bien se rendre compte que ce qui est en train d'être décidé aujourd'hui au niveau des marchés de l'énergie et de la privatisation rampante d'EDF, c'est la privatisation du feu. C'est extrêmement important.
Moi, j'y connaissais effectivement pas grand-chose en électricité, mais on comprend en fait très rapidement, tout au début de votre documentaire, que c'est une gestion de très très compliquée en fait, l'électricité, parce qu'il y a ces fluctuations constantes de demande, ouais. Et que du coup, c'est très difficile de s'adapter, sauf si on a justement un réseau de barrages qui permet de gérer ces fluctuations. Sans ça, en fait, c'est vraiment très, très compliqué.
Voilà, tout à fait. Alors, pour peut-être situer les barrages dans la production électrique, les barrages ne produisent pas énormément de courant. Par contre, ils en produisent de façon quasi immédiate. Il suffit d'appuyer sur un bouton, en gros, et quelques minutes après, vous avez des millions de watts qui sortent des turbines. Donc, ça, c'est très important. Au début, ça a été la seule énergie avec le charbon et d'autres, le gaz. Mais il n'y avait pas de nucléaire à l'époque en France. Je parle de ça, on est dans les années 20. Donc, dans ces années-là, 20-30, il y a eu en France construction d'une multitude d'ouvrages hydrauliques, donc des barrages, au début par des petites sociétés privées qui petit à petit sont devenues plus grosses et ont amené du courant aux villes, aux villages de France et aux industries. Voilà, ça c'est le point de départ. Alors, après, évidemment, il y a eu le nucléaire, donc les barrages sont devenus bien moins importants en termes de production, et aujourd'hui, c'est le nucléaire essentiellement qui nous alimente. Mais, c'est ce que vous venez de dire, les barrages sont quand même absolument cruciaux, parce que, on va expliquer ça simplement, enfin, on va essayer, quand vous consommez du courant, il faut que la même quantité de courant soit produite à l'autre bout de la chaîne. S'il y a une différence entre ce qui est produit et ce que vous consommez, le système électrique s'écroule, en gros. Hein, on a des blackouts. Donc, en fait, il faut qu'en permanence, on ajuste la production d'énergie à la consommation de la population française. Et c'est fait par différents acteurs et historiquement par EDF. Dans ce schéma, les barrages ont toute leur place. Évidemment, du courant, il y en a régulièrement. Donc, on pourrait se passer des barrages une grande partie de l'année. Mais il y a quelques moments, comme en ce moment d'ailleurs, en plein hiver, il y a quelques périodes, comme en ce moment, en plein hiver, au mois de février par exemple, où il fait froid, où toute l'Europe est dans le froid, où là, les chauffages sont à fond, dans les entreprises comme chez les particuliers. Et là, les barrages sont absolument nécessaires. C'est-à-dire qu'ils viennent apporter juste la petite pointe de consommation supplémentaire dans ces périodes-là et permettent de couvrir la demande et donc que le réseau ne s'écroule pas. Donc, vous voyez que c'est vraiment un pivot.
Ce qu'une centrale nucléaire pourrait pas faire, parce qu'effectivement, ça met très longtemps à démarrer, à monter en puissance, etc. Là, comme vous l'avez dit, c'est immédiat, on ouvre une turbine et on a de l'électricité.
C'est ça. Donc, le moment où le gestionnaire du réseau s'aperçoit qu'en fait, tout le monde allume le chauffage et que le réseau va pas tenir parce qu'on n'a pas assez d'énergie nucléaire, à ce moment-là, il demande aux opérateurs de barrage d'enclencher une turbine et ça libère de l'électricité qui est introduite sur le réseau et qui permet de couvrir la demande.
On comprend bien du coup que c'est bien une vision d'ensemble qu'il faut avoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on gère une demande d'électricité qu'il faut ajuster ici et là, mais et que ces barrages, ils sont utilisés ici et là. C'est-à-dire que c'est bien un tout qui gère et pas le barrage de tel endroit qui servirait cette demande de fluctuation là. Tout ça est agrégé à un moment et considéré comme un seul et arbitré en fait et géré de cette façon là comme un ensemble.
Tout à fait. Ben, l'électricité n'a pas de couleur, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, les électrons, quand ils sont mis dans le réseau, ils sont plus des électrons barrages ou des électrons nucléaires ou des électrons éoliens. C'est des électrons, ça se balade librement et ça va au plus rapide. Mais dans le réseau, même ceux qui optent pour des fournisseurs d'énergie écologique n'ont pas forcément de l'électricité durable. Ils ont peut-être de l'électricité de la centrale nucléaire qui est plus proche de chez eux. Et du coup, comme l'électricité va au plus proche, en termes de consommation, ça va chez eux.
Le système électrique, c'est vraiment un système qui est très complexe, beaucoup plus que ce dont on peut avoir l'intuition, parce qu'il faut donc qu'en temps réel, la somme de toute la production sur la plaque Europe soit égale à la consommation. Et s'il y a le moindre déséquilibre, ce n'est pas juste quelques consommateurs qui ne vont pas être fournis, c'est l'ensemble du système qui peut s'effondrer.
La production hydroélectrique, et en particulier celle des barrages et des grands barrages, elle est utilisée parfois en base pour alimenter la consommation, mais souvent pour accompagner les variations de la consommation que l'on observe au cours d'une journée et accompagner des variations rapides dans un sens ou dans un autre de cette consommation.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front et ce soir on vous diffuse un entretien avec Nicolas Hubelmann autour de son documentaire « Barrage, l'eau sous haute tension » qui s'intéresse au projet européen de la privatisation de l'énergie et pour ce faire d'une partie du parc des barrages hydroélectriques français. Avant la pause, Nicolas Hubelmann nous expliquait comment la gestion de l'électricité fonctionnait et en particulier à quel point l'apport des barrages était crucial dans ce système. Et on a commencé à mieux comprendre les conséquences d'une économie de marché sur ce bien commun.
la compréhension, elle est immédiate de à quel point ce qui se passe, c'est grave. C'est que si ces barrages passent à des entreprises privées, chacun différent, ça veut dire qu'on va jouer au plus offrant sur les coûts et que, du coup, il n'y aura plus du tout cet équilibre global d'un réseau global.
Alors, dans le rapport de ce syndicat Sud qui a fait ce magnifique rapport sur le risque de la privatisation des concessions, il y a une foule d'arguments. Mais vous avez raison, oui, il y a déjà l'argument de la gestion, comment dirais-je, optimisée par un seul opérateur qui gère de la production jusqu'à la distribution chez les clients finaux, entreprises ou les particuliers. Et il y a une optimisation du fait que c'est un seul opérateur. Donc, il est capable de effectivement jongler entre les sources d'énergie, aller au moins cher de tout ce qu'il a sous la main pour produire de l'énergie et de se garder un stock de sécurité si jamais les Français consomment plus. Donc ça, c'est un des arguments évidemment clés. Si on privatise EDF, et j'ai envie de dire c'est déjà fait pour une grande partie, le risque, c'est que cette optimisation soit complètement cassée et qu'on se retrouve avec des acteurs sur le terrain qui ne seront pas synchronisés et qui pourront faire valoir leur pouvoir de marché, c'est-à-dire le pouvoir de vendre de l'électricité plus cher. Il faut comprendre, par exemple, que quand vous êtes dans un moment de pointe, comme j'évoquais en hiver, l'électron qui permet de pas faire écrouler le réseau, celui qui l'a dans ses machines, eh bien, il est surpuissant, il a un pouvoir de marché. C'est-à-dire que c'est lui qui peut dire, moi, je mets cet électron, effectivement, j'en ai de l'électricité, je le mets, mais je le mets à temps. Je le mets à temps du kilowattheure. Et je veux temps pour ce courant-là. Donc, les acteurs qui se retrouvent dans des situations comme ça de pointe en hiver vont se livrer une guerre. Alors, évidemment, ça pourra quand même faire baisser peut-être les enchères. Mais enfin, celui qui a le pouvoir en dernier d'éviter l'écroulement du réseau, c'est un pouvoir phénoménal. C'est un pouvoir qui, pour moi, revient au pouvoir public, quoi.
Vous présentez dans ce documentaire la foule d'autres arguments sur ces sujets-là. Donc, premier, effectivement, sur globalement, il y a quand même, on n'est même pas tout à fait sûr que ça va baisser les prix, hein, en vrai. Ça peut plutôt les augmenter. Et puis, dans ce que vous venez de dire, il faut que ça reste un acteur public. C'est aussi que ces barrages, ils sont tiraillés entre différentes priorités à gérer qui peuvent être, comme j'ai dit tout à l'heure, l'irrigation en bas ou le plan d'eau en haut parce qu'il y a une activité touristique, il y a une saison qui démarre. Et ça, il faut aussi que ça puisse être géré par un service public. Ça pose quand même des vraies questions si ça devient un acteur privé qui décide entre eux si c'est l'irrigation ou l'électricité.
Ce sont des choix stratégiques, effectivement. Un barrage, ça sert à produire du courant, mais comme vous venez de le dire, ça sert aussi à irriguer les terres. Par exemple, quand on a besoin d'eau et qu'il y a une retenue d'eau, on peut s'en servir. Un barrage, ça sert aussi à faire de l'eau potable, à donner de l'eau potable aux habitants. Ça sert aussi à refroidir les centrales nucléaires qui sont en aval, des barrages. Donc, le barrage libère de l'eau, ça permet de refroidir les turbines des centrales qui sont plus bas. Donc, ça permet de faire du tourisme aussi. Ça a vraiment une foule de visages, en fait, un barrage. Donc, si on privatise ces barrages, c'est sûr que sur toutes ces questions-là, ça va se régler devant des tribunaux commerciaux. Alors que jusqu'ici, EDF le gérait avec les collectivités locales, plus ou moins bien d'ailleurs. Rien n'est tout gris, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Donc, voilà. Mais c'était quand même géré d'une façon, on va dire, de bonne intelligence et sans aller au procès systématique. Aujourd'hui, sur certains barrages qui sont déjà privatisés, je pense à la Compagnie Nationale du Rhône, qui est un opérateur historique de barrages, mais qui est quand même pour partie privée, détenue par Engie, eh bien ces barrages-là sont déjà en procès, cet opérateur-là est déjà en procès avec EDF pour avoir manqué d'eau, enfin pour avoir retenu de l'eau, alors que la centrale du Bugey avait besoin d'eau pour refroidir les réacteurs. Donc, c'est ce qu'on explique dans le film, ça a obligé la centrale à fermer des tranches qui sont en surchauffe, donc ça peut être extrêmement dangereux. Le directeur de la centrale qu'on a interviewé nous a dit, je me suis réveillé à 4h du matin, on m'a dit, il n'y a pas assez d'eau, ça chauffe, il faut qu'il libère de l'eau. Alors, comment ça s'est fait entre EDF et cette compagnie qui avait le barrage, ça s'est réglé devant les tribunaux pour avoir une compensation financière du fait que la société qui avait le barrage était obligée de lâcher un peu d'eau pour refroidir la centrale nucléaire. Effectivement, l'opérateur privé peut dire « Mais non, moi, écoutez, j'ai pas envie de lâcher de l'eau. Quand je lâche de l'eau, je ne produis pas d'électricité forcément, ou alors j'ai pas de clients pour le moment, donc j'ai pas intérêt à en produire. En tout cas, pas plus que ce qui est prévu. Donc, ce que vous me demandez là, c'est une perte sèche pour nous, donc compensation, donc tribunal ou procès, ou entente à l'amiable. En commerce, ça se fait aussi. Enfin, vous voyez, on ouvre une brèche dans des relations qui se passaient avant de façon en bonne intelligence et qui vont se transformer en process enfin, où le contribuable sera, à mon avis, le grand perdant.
D'autant que bon, c'est pas comme si on avait un réchauffement climatique qui arrivait et qui allait en plus faire que ces sujets de raréfaction de l'eau allaient faire que ces sujets d'arbitrage vont se poser de plus en plus.
Nous estimons que la mise en concurrence des concessions hydroélectriques aura de nombreux effets bénéfiques. Et tout d'abord, un appel d'offres est le meilleur moyen de favoriser les investissements dans les équipements et production hydroélectrique, en tirant parti de la compétitivité entre plusieurs candidats dotés de ressources et d'expertise différentes, de technologies différentes. C'est également le meilleur moyen, et c'est ça l'expérience que la Commission a en la matière, de valoriser la ressource hydraulique au bénéfice des finances publiques, nationales et locales. Croyez-moi, je ne sais pas si vous allez me croire, mais en tout cas, nous sommes concernés par le fait de bénéficier le consommateur final, pas d'autres considérations.
Shine, oh, if you
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front. Vous aurez reconnu Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Choix idoine, comme dirait Audrey, puisqu'on vous diffuse ce soir un entretien avec le réalisateur Nicolas Hubelmann autour de son documentaire Barrage, l'eau sous haute tension. Juste avant la pause musicale, il s'agissait d'un extrait de l'intervention du directeur général de la concurrence à la Commission européenne, daté de novembre 2018, qui fait partie du documentaire. Dans la troisième partie qui va suivre, Nicolas Hubelmann revient sur le risque de perdre le véritable trésor qu'EDF a accumulé tout au long de son histoire, un véritable trésor d'expertise au service de la sécurité que cette privatisation met en danger. Puis Nicolas Hubelmann nous retrace comment on en est arrivé là.
Il y a aussi des vraies questions de sécurité. Il y a des questions, il faut bien connaître ces barrages. C'est des barrages qui sont un peu vieux, très différents les uns des autres. Là aussi, si on n'a pas une vision d'ensemble et la base de données de toute l'histoire, de l'expertise, c'est très dangereux de s'en occuper, en tout cas de le confier à quelqu'un qui va s'en occuper et qui sans doute va considérer la sécurité comme un coût.
EDF a historiquement la gestion de tous les barrages de France depuis près d'un siècle. Donc ça veut dire qu'ils ont accumulé une base de données sur ces barrages, qui sont d'ailleurs, comme vous le disiez, très variés, très divers, qui est énorme. Et c'est un véritable trésor, en fait, ce savoir-faire, parce que EDF est un des premiers leaders mondial dans le monde des barrages, mais c'est justement grâce à ce trésor, c'est parce qu'ils ont accumulé une telle expérience qu'aujourd'hui ils sont capables d'intervenir à des coûts vraiment ridicules comparé à ce que ça coûterait s'il fallait faire intervenir des bureaux d'études, refaire certaines études. Donc ce trésor-là, en fait, c'est ça qu'il ne faut pas perdre.
Le gros avantage ou la grosse différence peut-être de l'ingénierie EDF par rapport aux autres ingénieries, c'est qu'elle s'est appuyée sur un parc d'ouvrages très complet, très diversifié. Il y a à peu près tous les types de barrages qui peuvent exister au monde. Il y a à peu près tous les types d'usines, de groupes de fonctionnement, turbines ou alternateurs. Il y a des milliers de kilomètres de galeries. Enfin, il y a à peu près toutes les situations qu'on peut rencontrer lorsqu'on étudie un ouvrage.
Et si on privatise EDF, ce trésor-là, il va disparaître. Parce qu'en fait, vous n'aurez plus, comme vous l'avez dit, ces ingénieurs-là pour intervenir. Il n'y aura plus ces données. Ça sera des compagnies privées qui ne seront d'ailleurs pas forcément copines entre elles, donc elles ne partageront pas le savoir-faire qu'EDF partageait avant entre les différents barrages. La sécurité, ça va passer comme un coup et ça ne sera plus la priorité de ces opérateurs-là. Ils feront au moins cher. Évidemment, le but, c'est d'éviter l'incident, parce qu'un incident de barrage, on en montre dans le film, c'est catastrophique. Donc, ils éviteront sans doute l'incident, mais ils auront au moins cher. Et puis surtout, à quoi bon investir si on est là pour 30 ans ou 40 ans? EDF était là pour une durée indéterminée, indéfinie, ce qui l'encourageait à faire des investissements solides et à pas avoir à retourner changer des turbines à 50 mètres de fond tous les 10 ans, quoi, parce qu'on installait des turbines chinoises qui sont moins chères. Donc c'est vraiment ce trésor qu'a EDF d'expertise, c'est un des plus grands dangers. Enfin, moi, ça m'a paru, et je l'ai vu dans le rapport, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui parlent, ça m'a paru comme le plus grand danger, en fait. C'est qu'on est en train de perdre un véritable bibliothèque d'Alexandrie, quoi, un véritable savoir sur l'énergie en France, quoi.
Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'arguments pour lesquels c'est pas raisonnable, si je peux utiliser cet euphémisme, de le faire. On en est du
plan européen de mise en concurrence du secteur de l'énergie est en train d'aboutir. Et l'aboutissement, c'est la fin d'EDF et c'est la fin d'un monopole d'État sur le secteur de l'énergie en France. Et c'est dans ces jours-là que ça, c'est en train de se passer. EDF vient de recevoir les syndicats hier pour leur annoncer que le plan Hercule, qui est donc un très joli mot pour cacher un projet qui vise à déstructurer totalement les entités d'EDF. Emmanuel Macron, déjà sous Hollande, avait déjà négocié avec la Commission européenne pour privatiser certaines concessions hydraulique. Il se trouve que ça s'est pas fait parce que il y a ce dossier vraiment chaud, que les députés commencent à se rendre compte que c'est peut-être dangereux. Donc ça a temporisé pendant un moment, mais Emmanuel Macron, maintenant président, accélère le processus et puis est en passe de signer donc avec la Commission européenne une négociation où EDF va se scinder en deux avec un pôle public et un pôle privé. Le pôle public sera le pôle le moins rentable, évidemment. Ça sera le pôle qui s'occupera du nucléaire, du démantèlement, de l'entretien des centrales, de la maintenance. Et un pôle privé qui va s'occuper, lui, de la partie commerciale, de la vente d'électricité, de l'acheminement d'électricité, des énergies renouvelables, etc. Donc voilà, le plan est en train d'aboutir. Donc le film est plus que jamais d'actualité. Et en fait, on s'aperçoit que ça a mis 20 ans, enfin même un peu plus, en 1996, que l'Europe avait ce projet, donc ça a mis quelques décennies. Mais on y est, aïe, c'est la fin d'EDF. On n'y aurait pas cru il y a 20 ans, mais en fait, c'est ce qui est en train de se passer, quoi. C'est assez catastrophique.
Et ça a été imposé de la même façon à d'autres pays européens ?
C'est européen, hein, cette volonté d'organiser un marché libre de l'énergie est une volonté européenne, avec sans doute des lobbies évidemment qui la poussent. Tout le monde est logé à la même enseigne sur le principe. Après, dans les faits, bah, la France est un peu à part, parce que nous, on a quand même eu cette société qui a le monopole de l'énergie en France depuis les années 1900. Elle a des concessions de barrages depuis 70 ans et parfois plus. Elle possède des centrales nucléaires. Elle avait même les réseaux, les câbles, les pylônes et tout ce qui va jusqu'à notre compteur. Donc, en fait, elle s'arrêtait derrière notre prise, quoi, cette société. Et ça, c'est assez unique en Europe. Il y a des situations où c'est beaucoup plus mixte, où il y a du privé et du public mélangé. Donc, ils sont pas autant impactés que nous. Et puis, il y en a qui se sont beaucoup mieux débrouillés que nous, c'est-à-dire qui ont sauvegardé certaines parties du secteur de la production d'énergie pour que ça reste dans les mains du public ou au niveau, comme en Allemagne, je crois que c'est au niveau des lenders que c'est géré. Donc voilà, il y a pas mal de situations différentes, mais la France a quand même cet opérateur unique, historique, EDF, qui est un peu un cas à part. Et là, nous, on n'a rien, c'est ça qui est incroyable, on a vraiment un cas à part et nous, on n'a quasiment rien demandé, quoi. On a un peu temporisé, parce que ça fait très longtemps que la Commission rêve de casser EDF, mais on a temporisé, mais bon, voilà, on le fait petit à petit. Il faut savoir qu'EDF, c'était quand même la société la plus aimée des Français jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc, c'était compliqué en France de vendre ce projet de l'Europe, de mettre un marché de l'énergie concurrentielle sur le modèle de la bourse et de la dérégulation. Donc, les gouvernements successifs, depuis Hollande, Sarkozy, Chirac même, ils sont allés un petit peu reculons, quoi. Enfin bon, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun avait mis son petit grain, petit à petit. On a fait la fin du tarif réglementé pour les entreprises, ensuite pour les plus petites entreprises. Maintenant, ça va être pour tout le monde. On a transformé EDF, qui était une entreprise publique, en société anonyme. Ça, c'était Raffarin. Après, Gaz de France fusionne avec SES, une entreprise privée. Ils font d'Engie l'année d'après. Fillon organise aussi tout ça avec un dispositif qui est hallucinant. D'ailleurs, je pense qu'il faut en dire deux mots pour les auditeurs. Mais il faut quand même savoir que le gouvernement Fillon a créé l'ARENH en 2010. L'ARENH, c'est un mot un peu barbare pour signifier l'accès régulé à l'électricité d'origine nucléaire. Et cette ARENH permet aux fournisseurs d'énergie privée d'acheter du courant quasiment à prix coûtant à EDF et de vous le revendre avec ses offres, ses contrats et sa plus-value, comme on l'imagine. Donc, ce qui était hallucinant, c'est qu'en fait, EDF est en train de donner du courant quasiment à prix coûtant pour que des concurrents lui fasse la peau. En gros, c'est ce qui se passe. C'est comme si vous aviez demandé à Renault de fabriquer des voitures pour que Toyota puisse percer le marché français et commencer à vendre des voitures françaises marquées Toyota en France. Voilà, c'est complètement hallucinant, cette loi. Alors, personne ne connaît l'ARENH, hein, moi-même, je ne connaissais absolument pas ce procédé. Ils ont obtenu, effectivement, les fournisseurs, ils ont obtenu d'avoir de l'énergie nucléaire à prix coûtant et de vous la revendre dans des contrats ficelés par eux. Et ils sont en train d'obtenir, là, que ce volume d'électricité donné quasiment à prix coûtant par EDF soit plus important qu'avant. Parce que EDF avait mis les holà en disant, attendez, oh là là, oh, ils ont perdu 1 million dans les premières années de clients par an. Eh bien, EDF a mis un holà, il a dit non, nous on donne une quantité, mais pas plus. Et bien, les fournisseurs d'énergie, avec l'appui des gouvernements successifs, ont obtenu que ce volume soit revu à la hausse et qu'il puisse se servir plus amplement dans les caisses du nucléaire. Ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est déjà passé d'une certaine façon, mais à l'envers en fait. Ça s'est passé quand EDF a été créé. En France, il y avait une multitude de fournisseurs d'énergie qui étaient des privés et qui avaient effectivement alimenté un peu les villes autour d'eux, quelques villages et surtout des entreprises. Très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, ces fournisseurs ne pouvaient pas équiper toute la France et il y avait plein de gens qui avaient du courant soit très cher ou qui n'avaient pas de courant du tout, notamment dans les îles, dans les dom-tom. Et donc, on s'est mis à penser une société qui pourrait créer un seul tarif qui serait le même qu'on habite à La Réunion ou dans la Creuse ou à Paris et qui serait fondé sur une seule entreprise qui aurait en plus un statut dans lequel les travailleurs seraient plutôt bien protégés avec des congés payés, avec des retraites satisfaisantes, un beau comité d'entreprise, etc. Et ce projet-là, qui s'est concrétisé avec la création d'EDF, est en train d'être mis à mal parce qu'en fait, on est en train de refaire tout le chemin inverse et on est en train de détricoter tout ce qui a été patiemment assemblé pour constituer ce réseau et cette entreprise. Et on est en train de la détricoter et on va retomber dans une forme d'anarchie un peu du 19e siècle où il va y avoir des offreurs à la criée qui vont nous offrir du courant plus ou moins cher suivant où vous habitez, suivant si vous êtes bon payeur ou mauvais payeur. Il y aura peut-être des façons de vous couper le courant très rapidement avec les compteurs Linky notamment, ça sera possible. Donc on est en train de faire une régression totale sur ce qui est en train de se passer avec l'énergie. Voilà, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'EDF a été créé à la Libération en 1945. C'est pas pour rien. Voilà, c'était un projet beaucoup plus qu'un projet industriel, c'était un projet humain, c'était un projet de société. On explique ça dans le film, c'était un projet contre le fascisme aussi. Et j'espère que le démantèlement d'EDF n'est pas un retour de ces années sombres, quoi.
Voilà, c'était un entretien avec Nicolas Hubelmann pour Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel et on le remercie très très chaleureusement, ça caille bien à Figeac je crois. Son documentaire Barrage, l'eau sous haute tension est à retrouver sur vos plateformes vidéo préférées, Vimeo par exemple. Alors c'est un sujet certes un peu technique, quoique franchement son documentaire le rende vraiment très accessible, mais ce sont vraiment des sujets passionnants qui tiennent le monde, comme il me confiait joliment hors antenne. Comme lui, je vous invite à ne pas avoir peur de vous documenter, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'infos sur le web et son documentaire en fait partie. Le sujet est en plus malheureusement particulièrement d'actualité puisque vous aurez récemment entendu opposition et syndicats monter au créneau pour dénoncer les récentes conclusions entre le gouvernement et Bruxelles à ce sujet. Et je vous propose pour conclure cette première partie de finir avec ces quelques phrases d'un discours du fondateur d'EDF cité lui aussi dans le documentaire.
Chers collègues, je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge un instrument fondamental de la vie du pays, que votre dignité, comme l'intérêt national, vous font un devoir impérieux de continuer à défendre, sans jamais défaillir, le service public, propriété de la nation contre les représentants du grand capital industriel et bancaire, dont le seul objectif est d'asservir encore plus le pays à leurs insatiables besoins de domination et de profit. De continuer, avec le même courage, à défendre votre légitime statut national, vos retraites, vos œuvres sociales, anciens et nouveaux, actifs et inactifs, ces lignes s'adressent à chacune et à chacun de vous, avec une profonde conviction qu'ensemble, nous avons bien mérité et méritons toujours de cette patrie dont nous voudrions voir filles, fils et parents heureux.